Ok. On va commencer Bezrat Hashem, notre cinquième cours, je crois, sur le chapitre 7, et probablement ce sera le dernier cours sur ce chapitre, ou pas, mais enfin, en tout cas, selon ce qu'on va développer. Donc, on va continuer à parler sur le thème du Tzimtzoum. Et la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est, étant donné que tout provient d'Akadosh Baruch Hu, et que ça, c'est un fait indéniable, comment se fait-il qu'il y a des créatures qui peuvent être créées qui voient la présence d'Akadosh Baruch Hu? Vous me suivez?
Carrément.
Oui. Parce que, quand je réfléchis un petit peu, si tu me dis par exemple qu'il y a un peintre qui est en train de dessiner une peinture, la peinture ne peut pas cacher le peintre si le peintre est en train de dessiner cette peinture. C'est-à-dire qu'à aucun moment une personne dira cette peinture s'est faite d'elle-même. Surtout si tu vois le peintre, avec son pinceau, à aucun moment une personne dira « Ah, la peinture est magnifique, elle s'est faite toute seule. » Tout le monde voit qu'il y a un peintre avec son pinceau qui est en train de peindre cette peinture.
C'est clair.
C'est le cas de notre monde. C'est une réponse de Rabbi Akiva. Une fois, Rabbi Akiva, il a rencontré un je fais que tu le rapproches, mon Chazak David. Une fois, hein, allez partir, c'est dans les réserves. Une fois, Rabbi Akiva, il a rencontré un notable romain, très important. Et ce notable romain lui pose la question, il lui dit, vous dites chez vous les juifs que Dieu a créé le monde. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, je pense que le monde s'est fait tout seul. Alors, Rabbi Akiva, il a dit, bon, comment on discute, etc. Et Rabbi Akiva était un très bon dessinateur. Et il ne lui a pas dit. Donc, il a profité un moment où le notable, un ministre, il a été appelé. Et bien, Rabbi Akiva, il a trouvé il a fait un dessin magnifique. L'autre, il revient, il dit, waouh, qui a fait ça? Rabbi Akiva lui dit, je sais pas, il y avait ici de l'encre, etc. Je sais pas, j'ai jeté de l'encre, ça fait un beau dessin comme ça. L'autre, il dit, non, tu me l'as fait pas. Il y a quelqu'un qui a fait ce dessin. Pas possible. Non, je te promets, c'est, voilà, il y avait de l'encre comme ça, et probabilité, etc., ça s'est fait. Il dit, mais non, c'est impossible. Il dit, ah, je comprends pas. Sur un petit dessin qui est devant nous, François, tu me dis, c'est impossible que le dessin s'est fait tout seul. Et sur un monde entier,
avec une perfection,
avec on peut pas compter le nombre de fois plus de détails. Tu me dis, c'est fait tout seul. C'est évident que Akadosh Baruch Hu se cache derrière tout ça. Sauf que, la question qu'on va développer aujourd'hui, c'est comment Akadosh Baruch Hu a-t-il pu se cacher à ce point? D'un côté, il crée le monde. Et d'un autre côté, il se cache au point qu'on ne le voit pas. C'est très dur, ça, comme question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui naissent et qui meurent sans croire en Dieu. Ils naissent et ils meurent sans croire en Dieu. Ça veut dire qu'il n'y a rien dans leur vie qui les a obligés à croire en Dieu.
Il y en a même qui s'inventent des dieux.
Non, ça c'est déjà mieux, déjà.
Au moins,
il y a quelque chose. Bien sûr.
Ce qui se passe aux États-Unis,
comment tu fais? Est-ce que vous êtes capable de prouver aux gens autour de vous l'existence de Dieu? Vous avez un client en face de vous, ou un cousin, ou ce que vous voulez, l'avdil, d'accord, qui vous dit je ne crois pas en Dieu. Est-ce que vous avez un moyen de lui prouver que Dieu existe? Une preuve. Mais attention, quand j'ai une preuve, c'est pas
une vraie preuve.
Si, l'air du corps que tu respires.
Non, c'est pas une preuve, ça.
Ah bon?
Non, c'est pas une preuve. Parce qu'une preuve en mathématiques, une preuve irréfutable.
Eh ben, on cherche des planètes, s'il n'y a pas d'oxygène, on ne peut pas vivre.
Ça, je comprends, mais c'est pas une preuve que Dieu existe, ça. C'est une preuve qu'il y a une planète.
Oui, ouais. Non, mais l'air, c'est qui l'a inventé?
C'est pas
produit.
C'est pas parce que je sais qu'il y a de l'air, qu'il y a rien qui l'a créé, que je veux dire que celui qui l'a créé, c'est Dieu. C'est pas une preuve.
Ah, si, puisque ça alimente, c'est la base.
Regardez,
de la vie de tous les individus.
Les biscuits que vous avez devant vous ici. D'où ils viennent?
Bah, c'est un homme qui l'a fait.
D'où vous savez?
Ah bah, c'est évident.
Pourquoi c'est évident?
On les trouve dans la rue.
Non. Pourquoi c'est évident?
Parce que ça demande un certain travail, une certaine.
Oui, mais qui vous dit que c'est un homme qui les a créés, ces biscuits?
Un homme ou une femme, bon, peu importe. Mais...
Qui vous dit qu'il n'y a pas d'un arbre qui donne des biscuits?
Non.
Vous avez une preuve?
Qui sont plantés, qui amenés.
Hein. On va faire des recherches.
Est-ce que vous avez... T'as pas de preuve?
Aucune preuve.
Non, par contre, la preuve que tu pourras faire. Ils vont dire non, mais il dit écoute, je vais t'amener dans une usine et je vais te montrer comment les biscuits sont faits. Non. Et là, c'est facile. On va suivre la chaîne de production. Et c'est quelque chose qu'on peut suivre aujourd'hui. On va suivre les chaînes de production. Je dis, regarde, Mandy, tu vois, le Bisley, il y a un magasin qui est à côté. Ce magasin vient d'un fournisseur. Ce fournisseur vient d'une usine. Et là, tu dis, bon, regarde, il y a une usine. Ils l'ont fait. Donc je peux répondre à la question. Est-ce que je peux suivre la même, est-ce que je peux suivre la même progression avec Akadosh Baruch Hu? Non. Je suis incapable. Je suis incapable de te remonter jusqu'à la création du monde.
Mais ça, par rapport à ça.
Donc, comment on a fait? Comment ça s'est passé?
Qu'il y ait des éléments de la création qui montrent que c'est Hachem qui les a fait, on peut le trouver.
Non, ça c'est sûr. Mais, attention, je ne suis pas en train. Mon but, c'est pas que vous rentrez.
Depuis la création.
Mon but, c'est pas que vous rentrez ce soir après le cours chez vous à la maison et que tu sais, écoute, Zavotam dit, écoute, tu sais, je sais pas, Mandy, je crois qu'il commence à avoir des questions sur. sur l'existence de Dieu. Non, c'est pas du tout mon but. Je vous rassure, je suis croyant. Comme nous tous. Ma question n'est pas est-ce qu'on est croyant. Est-ce qu'on a une preuve?
Par exemple, que là, effectivement, on n'a pas une preuve. Aujourd'hui, on n'a pas une preuve, mais dans la Bible, c'est marqué.
C'est pas une preuve. Mais c'est pas une preuve. La Bible n'est pas une preuve.
Ah, donc la Bible, c'est pas une preuve.
Bien sûr, c'est pas une preuve. C'est un livre. Un livre où tu crois ce qui est écrit dedans, tu crois ce qui n'est pas écrit. Tu crois pas ce qui est écrit dedans. Moi, je crois ce qui est écrit dedans, mais c'est pas une preuve. Vous avez quelqu'un en face de vous dans la rue qui dit, vous avez un scientifique en face de vous qui vous dit, prouve-moi que Dieu existe.
Ouais. Mais tu sais ce que tu réponds à.
Pour moi, c'est marqué par un livre.
Exactement.
C'est une très bonne question. Ok. Ok.
Il y a autant de preuves que Dieu existe.
Il y a
ça.
Il y en a pas.
Non. Jacques, je peux vous amener une preuve que je peux vous amener une preuve que le Mont Sinaï a existé.
Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que la Shoah n'a pas existé. Ça s'est passé il n'y a même pas 100 ans.
Ouais. Mais ça, j'ai des preuves.
Non.
J'ai des survivants, j'ai des preuves. J'ai des écrits. Mais par contre, sur le Mont Sinaï, j'ai des preuves. Quelles preuves j'ai dans le Mont Sinaï? J'ai des preuves de gens qui étaient présents et qui me racontent.
Ouais.
Maintenant, qu'est-ce qui va me prouver que ce qu'ils ont vécu, c'était réellement une révélation divine?
C'est là le problème.
Et s'ils étaient conditionnés par Moïse? T'as pas de preuves. Parce qu'encore une fois, en mathématiques, une preuve, elle doit être irréfutable. Une preuve irréfutable, j'en ai pas.
Non, elle doit se démontrer.
Parmi les religions, on est la religion, si vous voulez, qui a le plus de probabilité, parce que bien sûr, je suis certain de la véracité, parce que nous, notre religion n'est pas basée sur une révélation à un être humain, une pseudo-révélation à un être humain. Elle est basée sur une révélation à des millions de personnes. Certes, mais une preuve, j'en ai pas. Pourquoi? On a la réponse aujourd'hui. Parce que Akadosh Baruch Hu a utilisé le phénomène du Tzimtzoum, qu'on va développer tout de suite. Allez, on y va. On a assez parlé. Et là, seulement. En haut de la page 100.
C'est pas l'effacement, c'est la contraction.
On va développer. Et là seulement. Pourquoi Dieu n'est pas visible? Pourquoi je n'arrive pas à prouver que Dieu existe? Ça veut dire qu'il se cache. Mais comment il se cache? T'as une personne qui se cache, mais qui est là. Qui te dit, il se cache, mais tu l'entends. Tu dis, ah, je suis là. Tu entends sa voix. Hein, c'est comme, je vois les enfants jouer à cache-cache dimanche. D'accord? Comment ils jouent? Tu vois, ça veut dire que tu ne le vois pas, mais tu l'entends. Et tu arrives à sentir où il est.
Mais là,
chez Akadosh Baruch Hu, c'est peut-être plus que ça. Et là seulement. Chez Tzimtzem Akadosh Baruch Hu Haor Ve'achayut Shiyuchal Itvashet Moror Piv. Akadosh Baruch Hu a contracté la lumière et l'énergie qui pourrait se diffuser du souffle de sa bouche. Ve'il bish otor tsiroufé otiyot shel asara mamarot. Akadosh Baruch Hu, c'est les termes un peu techniques ce qu'on va dire, mais on va développer, a habillé l'énergie l'énergie de sa parole dans des combinaisons des asara mamarot, des 10 paroles, ve'tsiroufé tsiroufehen, et les combinaisons de leurs combinaisons, ve'chiloufé utmarot otiyot atzman, par les substitutions et permutations des lettres elles-mêmes, je reviens tout de suite, ou ve'chashbona ou ve'misparam, avec les chiffres et les calculs de la valeur numérique, chez Kol Chilufut Mira, Moral Yeridat Aor Vachayut Madrigal Madriga, car chaque permutation indique une descente de la lumière.
Bon, il faut qu'on explique de quoi on parle.
Ouais, c'est 800 000 mathématiques.
Je sais pas si vous vous rappelez.
Ouais, c'est 800.
C'est pas si longtemps que ça, ça fait quelques mois. On a étudié le chapitre 1 de Sharichut Emunah. Là, on est au chapitre numéro 7. Chapitre 1.
On est devenus des experts, quoi.
On a expliqué, exactement. C'était donc voilà, saison 1. Épisode 1. Là, on est épisode numéro 34, d'accord? Donc, on va revenir à l'épisode 1. Premier épisode de Shacharit Emunah. Qu'est-ce qu'on a dit? On a expliqué qu'en vérité, toute l'énergie du monde se trouve dans la paracha Bereshit. Et dans la paracha Bereshit même, toute l'énergie se trouve dans le Rishon de la paracha Bereshit.
Dans les 10 paroles.
Depuis le début de la création du monde jusqu'à Yamashishi. Tout est là. Ça veut dire que toute l'énergie du monde qu'on a autour de nous, le bisli qui est devant moi, son énergie divine se trouve dans la paracha Bereshit. Et moi, Admor HaZaken a posé la question, il a dit pourtant, le mot bisli n'est pas écrit dans la paracha Bereshit. Le mot pierre n'est pas écrit. Pierre, la pierre, une pierre.
La matière.
C'est pas écrit. Donc comment la pierre a été créée ? Et là, il a expliqué que ce qui a créé le monde, ce sont des paroles d'Akadosh Baruch Hu. Il y a des paroles directes et des paroles indirectes. Par exemple, valeur numérique du mot Even. Even, pierre. Aleph, 1. Bet, 2. Nun, 50. Ça fait 53. Le mot Even n'est pas écrit dans la paracha Bereshit. Donc, si je cherche l'énergie divine qui fait eu la pierre, c'est pas écrit. Ce que je devrais chercher, c'est un autre mot qui a la même valeur numérique que 53. Maintenant, pour compliquer les choses, ça aurait été relativement facile. Tu prends n'importe quelle application ordinateur, tu dis, bon, ben, on va prendre Parashat Bereshit, il n'y a pas des masses, c'est une page et demie dans le Sefer Torah, on va chercher un mot, c'est facile, un mot qui a la valeur numérique de 53. Cependant, c'est pas si simple que ça. Parce qu'il y a plusieurs façons de faire des guématrias. Il y a des permutations. Par exemple, on te dit, Aleph, c'est 1. Mais le 1, tu peux l'interchanger, par exemple, avec 100. Parce que 1 est égal à 100. Le bête, tu peux l'interchanger avec 200, parce que 1 est égal à 200. J'ai une autre façon de faire les choses aussi, je peux intermuter chaque lettre avec la contra. À savoir, par exemple, Aleph est égal à Tav. Bête est égal à Chin. D'accord ? Et donc du coup, au lieu de chercher un Aleph, je vais chercher un Tav. Et Tav, la valeur numérique, c'est combien ?
400.
C'est 400. Donc là, je m'embrouille. Alors, je ne vais pas vous embrouiller,
c'est clair.
Mais il y a 251 façons de faire des combinaisons.
Je vous embrouille, hein.
Non, pas du tout. C'est pour vous expliquer comment on peut arriver à tout ce qui existe dans le monde. Maintenant, je vais vous embrouiller encore plus, et c'est le thème du cours d'aujourd'hui. C'est que ces 251 façons que je vous ai dit, je vous en ai donné que deux maintenant, mais je vous donne encore plus si vous voulez. D'accord. Alors, je vais aller plus loin. Par exemple, quand vous écrivez Even, Even, c'est Aleph Bet Nun. Aleph. 1, bête, 2, nun, 50. Mais j'ai une autre façon de faire la guématria. Aleph, comment j'écris Aleph? Aleph, lamet, P. 1, 30, 80. Ça fait combien? 1, 30, 80. 111, d'accord? Lamed. Comment j'écris lamed? Lamed. 30, 40, 4. Ça fait combien?
30, 40,
74. D'accord? Non, c'est pas fini, deux secondes. Dalet. Comment j'écris
dalet?
4, dalet, c'est 4, plus 30, plus 400.
434.
Vous additionnez tout ça. 434 plus 74 plus 111. Ça fait combien?
Alors, Yves.
Bon, alors je ne vais pas vous embrouiller, mais je pense que la calculatrice de votre iPhone n'arrivera pas à suivre. Parce que là, maintenant, ces combinaisons que je vous ai dit, il faut imaginer que les 231 combinaisons que je vous ai dit, on peut les multiplier encore 231 fois.
Donc finalement, je peux arriver à la
ça veut dire que je peux, ça veut dire que chaque combinaison, je peux descendre 231 fois. Donc, n'importe quel mot de Bereshit que tu prends, dis-toi que ce mot-là, tu peux le faire descendre 231 fois par 231 combinaisons différentes.
Si tu connais n'importe quel mot en général.
Donc, c'est puissance 231.
Donc, tout est connu.
Non, pas puissance 2.
Non.
Puissance 231. Parce que à chaque niveau, je peux encore descendre, donc c'est infini.
Bah oui.
J'ai essayé une fois l'ordinateur.
Erreur.
Bah ouais.
Bien sûr, erreur.
C'est clair.
Game over.
Non, game, il est... erreur.
Oui, 231, pas 231, c'est un gros.
C'est plus que ça. C'est qu'à chaque niveau, tu peux avoir 231 permutations différentes possibles.
C'est ça.
Donc. C'est à l'infini.
231 puissance 231, ça doit faire des...
Maintenant, ce qu'il faut comprendre, et là j'arrive à mon idée, c'est que, c'est pas de la rigolade, je vais expliquer pourquoi je dis ça. Je dis pas ça pour vous embrouiller.
Non, mais c'est clair.
Plus tu descends dans les combinaisons, et moins tu ressens la présence d'Hachem.
Bah oui.
Voilà.
Non,
c'est pas ce que j'ai dit.
Non, c'est pas ça.
Non, c'est pas ce que j'ai dit.
Au contraire.
On va réfléchir ensemble.
C'est comme la plongée sous-marine.
Quels sont... Dites-moi ce que vous vous rappelez. Quelles sont les choses dont vous vous rappelez qu'il est écrit dans Bereshit ? Écrit clairement. Que Dieu a créé. Les créatures, c'est écrit clairement que tu les as créées. Les poissons, très bien. Une autre créature qui vous passe par l'esprit. La lumière.
L'homme.
Allez, dites-moi ce qui vous passe par l'esprit.
Le Shabbat.
Quoi? Dites-moi. Les étoiles. Toutes les créatures qui sont écrites explicitement dans Bereshit, l'énergie divine est ressentie en eux de façon plus puissante. Après, plus tu descends, et plus on passe dans les combinaisons, et moins tu ressens. Le Bisley, je ne sais pas à quel niveau il est. Est-ce qu'il est au niveau 4? Est-ce qu'il est au niveau 5? Est-ce qu'il est au niveau 230, 231? J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que plus on descend dans les combinaisons, et moins on ressent la présence d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça le secret du Tzimtzum. C'est que tout démarre de la même parole d'Akadosh Baruch Hu, et c'est la même. Tout le monde est parti, tout le monde a démarré de la même parole, la même énergie divine. La différence va être combien de passages on va passer.
Une parole, un mot,
une combinaison.
Mais c'est logique parce que
et plus tu passes.
C'est quoi ce mot?
D'accord. Je ne sais pas. Tout est écrit dans Bereshit.
Alors attends, si je me mets ça à la bouche et que je me concentre, je peux éventuellement.
Dans le bistec que vous allez manger, il y a une énergie divine. Il y a une énergie divine qui vient d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a aucune question dessus.
Mais Mandy, c'est un peu logique.
Bah, au retour, on va revenir.
Amen. C'est logique. Que, rappelle-toi, quand Hachem s'est présenté au Mont Sinaï, qu'il a commencé à dire les deux premiers, comment dirais-je, commandements, les deux premières paroles, on avait parlé du souffle et de l'écho. Rappelle-toi, ils étaient tellement puissants.
Alors, effectivement, comme ça, le monde peut remarquer. D'accord.
Ils pouvaient pas. Ils sont morts. Non. Transmet.
En rapport avec la paracha de cette semaine, justement. On explique qu'au moment où Hachem a donné la Torah, pendant les deux premiers commandements, les Bnei Israël voyaient ce qu'ils entendaient et entendaient ce qu'ils se voyaient. C'est-à-dire, ça veut dire que lorsque Hachem a donné la Torah, les Bnei Israël, lorsqu'ils voyaient n'importe quel élément de la nature, ils arrivaient à voir son origine divine.
C'est la paracha cette semaine, ça.
Cette semaine. D'accord. Cette semaine, Yitro. Hein?
C'est hallucinant.
Mais comment lui,
il a reconnu.
Il trouve comment il a reconnu la voix de Dieu.
Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en train de comprendre aujourd'hui que Dieu se cache, mais il est là. Mais plus il se cache, et moins on le voit. Et ça, on le voit dans la nature. Plus une chose est convertie, et moins tu sens d'où elle vient. Tu prends un élément. Tu prends par exemple, comment on a fait les bisli? Voilà. Bah, les preuves difficiles, je prends du papier. Comment on a fait le papier qui est dans moi?
Avec du bois.
Est-ce qu'on voit le bois dans le papier?
Non.
Pourquoi?
Extraordinaire.
Pourquoi on voit pas le papier?
Transformation.
Parce qu'il est transformé. Ça, c'est une transformation. Une transformation, et déjà, vous voyez, je vois plus le bois. Ça veut dire que quand je vais raconter maintenant à mon fils que, tu sais, ça, on a pris du bois qu'il y a dehors, il va me prendre pour un fou. Et ça, c'est une transformation. On a pris du bois et on en a fait un du papier. On a imaginé. Si tu peux descendre à 231 transformations comme ça, c'est-à-dire que par exemple, ce papier, je vais le brûler, je vais faire une pâte, je vais en faire de la cendre, je vais transformer. Tu arrives à des résultats qui n'ont rien à voir avec l'énergie du départ. Pourtant, il y a bien un début et bien une fin. Et tu peux retracer. Mais tu comprends que plus tu convertis une chose, et plus tu as du mal à voir son origine. C'est la raison pour laquelle, quand on voit le monde qui est autour de nous, on a du mal à comprendre comment il y a l'énergie divine dedans. Va expliquer à quelqu'un que dans ce plastique, que sera interdit maintenant, que dans le plastique qui est devant moi, ce plastique c'est du
pétrole.
Moi, je me rappelle quand j'étais enfant, la première fois qu'on m'a dit ça, j'ai pas cru. J'ai cru qu'on se moquait de moi. Voilà, pour moi, le pétrole, c'est l'essence. Bon, pas essence. Tu me dis que tu sens. Bon, je me rappelle mon premier réflexe quand on m'a dit ça. J'ai senti. J'ai dit non.
Tu l'as mis dans.
Non, je me rappelle. Premier réflexe, on m'a dit ça. J'ai pris un morceau de plastique avec moi. J'ai senti. J'ai dit non. C'est pas possible. Hein?
C'est ça. C'est de l'essence.
Oui.
Et de l'or épiqué depuis longtemps.
Bah, bien exactement, bien sûr.
Sur une lame de couteau, les lames d'amas, la lame forgée. On le voit à travers les traits qu'on voit.
Oui.
Plus tu bats le couteau dans le feu,
c'est plié.
Il y a une trace, ce qu'on appelle lame d'amas. C'est connu pour les gens qui sont dans le couteau.
Parole d'expert.
Et tu vois une, deux, trois, quatre, et te disent combien il y a eu de plis, mais tu le vois à l'œil nu. C'est magnifique, c'est ça. Moi, à travers le même.
La transformation.
La transformation.
Et sûr.
L'armurier.
Et donc, bah oui, je sais. Et donc chaque permutation fait descendre encore plus et encore plus et encore plus. Maintenant, d'autant plus que, n'oubliez pas que Yves, je vais te compliquer un peu plus les choses. pour nous, ça complique encore plus. Pourquoi ? Parce que nous, en vérité, on est nés de parents qui sont 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 nés de parents. C'est-à-dire que quand tu vas voir le bisli maintenant, tu ne vas pas imaginer que le bisli depuis le grain de blé. Ça vient du blé, ça, oui ? Tu dois imaginer ce grain de blé d'où il vient. D'où vient ce grain de blé ? L'origine. Quelle est son origine ?
Le blé.
Non, mais d'où il vient ce grain de blé ?
La création du monde.
Hein ? Donc il vient d'un autre grain de blé. Et donc tu vas remonter. Maintenant, est-ce que tu peux tracer ce grain de blé jusqu'au premier grain de blé qui était dans le monde ?
Pour l'instant, non.
Je sais pas si vous imaginez. Chaque fois, c'est une permutation, c'est une transformation.
L'ADN.
Chaque transformation, c'est encore une fois une occultation.
Ils subissent en plus des transformations.
Bien sûr.
Des altérations.
Tous subissent des transformations. Comme les virus, comme tout, j'espère.
C'est le même principe que tu avais expliqué au tout début. Par rapport à l'échama d'Adam qui s'est décomposé et c'est des régénérations de ces
échamas. On va continuer maintenant à expliquer. Donc vous voyez, ce que vient expliquer ici Admor HaZaken, c'est que si Akadosh Baruch Hu avait répertorié dans la paracha Bereshit toutes les créations qui vont exister, le monde n'aurait pas eu de Tzimtzum. On aurait vu dans chaque création la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un exemple, très simple. Par exemple, première chose que Dieu a créée, c'est quoi ?
Le ciel et la terre.
Ciel et la terre, d'accord. Première chose que Dieu a créée. Non, mais ça c'est pas écrit. Dieu n'a pas parlé pour faire. Bereshit au commencement, Bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. Là, j'ai pas de parole divine. Là, j'ai pas de parole. Première parole divine, c'est quoi ? Yomer Elohim, Dieu a dit, or, que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc, il y a une parole de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi que la lumière, jusqu'aujourd'hui, c'est un phénomène dans lequel on voit une énergie. On est d'accord ? Jusqu'aujourd'hui.
Mais elle est réduite.
Continuez. Prenez les autres paroles de parashah. Vous verrez que toutes choses dans lesquelles il y a écrit Vayomer Elohim Dieu a dit, c'est des choses dans lesquelles tu peux voir la puissance de l'Akadosh Baruch Hu.
D'accord, mais je ne vois pas l'origine de l'énergie.
Non, vous avez compris. Mais tu vois que l'énergie.
Je ne vois pas l'origine.
Ok, c'est déjà quand même quelque chose. Quand tu vois une énergie.
Tu sais d'où elle vient l'origine.
Tu comprends quelqu'un qui a fait tourner. Non, je comprends. Tu as raison. Ça ne veut pas dire que je vois à l'origine l'énergie, mais je vois quand même une énergie. Ce qui n'est pas le cas dans un bisli. Je ne vois pas d'énergie dedans. Voilà. Donc plus on descend, et moins on sent la présence d'Akadosh Baruch Hu. On y va dans les mots.
Donc,
Vechashbonam ou Isparam. Shekol Chilouf. Je suis au quatrième paragraphe. Shekol Chilouf ou Tmura, car toute substitution ou permutation, Moré al Yerida Taor, indique la descente de la lumière et de la vitalité. Vechayut, Yumadrigal et Madriga, de niveau en niveau. Chaque permutation, c'est une descente. Encore plus, et encore plus, et encore plus. Daïnou, ça veut dire. Shiyuchal livro ou les achayot beruim. Pour arriver à un résultat que Dieu va pouvoir créer et faire vivre des créatures. Shemadrigot ichutam ou ma'alatam iprutam madrigot ichut maladbrum anivraim. Meotiot vetevot atzma shemasar mamarot. C'est ce que je viens d'expliquer. Que l'énergie divine présente dans un objet qui n'est pas écrit explicitement dans les dix paroles d'Hachem sera moins puissante que l'énergie divine d'un objet écrit explicitement dans les dix paroles. Vous me suivez? C'est-à-dire, prenez ce soir, si vous voulez, quand vous rentrez chez vous, prenez un Chumash Bereshit, prenez que le Rishon, c'est pas long, c'est une page et demie, et regardez, chaque fois où il est écrit Dieu a dit, c'est ça les paroles. Et vous verrez que toutes les fois où on a dit Dieu a dit que la lumière soit, tout le reste, par exemple, Dieu a dit là-bas que le système solaire, parce que vous savez que quand Dieu a créé le monde au début, il y avait tous les astres qui étaient créés. Mais il n'était pas en orbite.
Disposé.
Et le quatrième jour de la création, Dieu a dit, on a une parole d'Hachem, que le système solaire fonctionne. C'était le premier mercredi de la création. D'ailleurs, c'est pour ça que tous les 28 ans, le système solaire revient au même endroit où il était à la création du monde. Et c'est pour ça qu'on a le fameux Birkat Hachama.
Ouais.
Donc là, vous êtes d'accord avec moi que le système solaire représente aussi une puissance. Quand tu analyses le système solaire, tu vois que ça bouge, il y a une puissance.
Ouais.
Ça bouge. Encore une fois, c'est un exemple. Qu'il a été cité explicitement dans la paracha Bereshit. Dieu a dit que les lumières soient dans le ciel et qu'ils soient en orbite. Adayom, jusqu'aujourd'hui, tu regardes l'orbite et tu vois une puissance. Tu prends tous les éléments de la paracha Bereshit où Dieu a dit Vayomer Elohim et tu verras que ces éléments-là, jusqu'aujourd'hui, tu vois la puissance. Par contre, les éléments qui ne sont pas écrits explicitement, mais finalement ceux qui sont créés, mon téléphone, voilà, les chips, les bisli, tout est créé, mais c'est une permutation.
Et
dès qu'il y a une permutation.
Parce que la première mitzvah qu'on a eue, c'était de bénir le Rosh Chodesh.
Il n'y a pas eu de Vayomer Elohim sur le temps.
Alors ?
Donc il n'y a pas ?
Mais tu ne le perçois pas.
Non ?
Tu arrives à le quantifier.
Je ne perçois pas la présence divine dans le temps.
Alors comment on fait alors pour les fêtes alors ?
Dieu a dit. Non, je n'ai pas dit que Dieu n'existe pas.
Non, j'ai pas dit ça.
J'ai dit que ma question c'est comme ça, c'est il y a des choses dans le monde dans lesquelles on ressent une énergie et des choses dans lesquelles on ressent moins une énergie.
Et pendant les fêtes, Yom Tov et Shabbat, tu ressens cette énergie.
Non, je comprends. Je parle de choses concrètes, physiquement. Quand je vous dis par exemple aujourd'hui, je continue un petit peu dans mon idée. Si je vous demande, essayez d'imaginer maintenant des choses dans la nature autour de vous qui vous expriment une énergie, que vous sentez une énergie, pas divine, une énergie, qu'il y a de la puissance.
La chaleur.
Voilà, très bien. Dites-moi ce que vous passe par l'esprit.
La chaleur.
Oui, la chaleur quand
encore. Tu le sens.
Donc la chaleur, c'est le feu.
L'air que tu respires.
Le vent. Non, l'énergie, une énergie.
Le moteur.
Le vent, l'énergie.
Bien.
Le moteur d'une voiture.
L'énergie hydraulique, t'en as plein.
On a vu aujourd'hui, dans le Tehilim d'aujourd'hui, le psaume du lundi, Ruach Seara, un vent, une tempête. Une tempête. Très bien. On peut quoi encore? Ciara, pas mal. C'est vrai, bien vu. Hein.
T'as dit quoi?
Ciara, c'est
la tempête.
Ruar, Ciara. En hébreu, Ciara, c'est une tempête.
Ah ouais.
Là, ils l'ont appelé Ciara. Je sais pas qui l'a appelé comme ça, mais.
Ciara.
Hein? Bah, je sais qu'il l'a appelé comme ça.
Ciara.
Il s'appelle Ciara avant.
Aucun rapport. C'est tout. Chaque tempête, elle prend la première lettre.
Ouais. C'est ça.
Non, de celui qui l'a trouvé.
Non. Mais non, la lettre suivante, l'alphabet.
Bien sûr. Pour les chiens.
Et il trouve un prénom pour chaque première lettre.
C'est ça. Et c'est pas le nom de la belle-mère.
Là, ils sont à la lettre C.
C'est ça.
Et celle d'avant, c'était quoi?
Ciara, c'est espagnol. C'est italien.
Bernard.
C'est lui qui trouve le truc, c'est le nom. Il donne le nom. Il donne le nom.
Il donne un prénom. La prochaine CD, ouais.
Merci.
Transformation.
On a une transformation, vous pouvez méditer là-dessus.
Bon, donc tous les éléments qui sont écrits explicitement dans Bereshit, on sent leur énergie. Les autres, on sent pas leur énergie. C'est ça le Tzimtzum. On continue. Shebahen mitlabesh akadosh baruch birvodo b'atzmo she'en midotav. Il y a des choses dans le monde qui expriment une puissance. C'est intéressant ça aussi. Il y a des choses dans le monde qui expriment une rigueur. Il y a des choses dans le monde qui expriment une bonté. D'accord ? Par exemple, qu'est-ce qui exprime une bonté pour nous, dans la nature ?
La beauté des fruits, le goût des fruits.
Une bonté, la bonté d'Hachem. Des choses que vous voyez.
D'accord.
Bien. Beaucoup de choses.
L'eau.
On a par exemple le soleil.
Le jour et la nuit.
Le soleil.
C'est la besoin du jour et de la nuit.
C'est la clarté. La clarté. On vient de Tu Bishvat aujourd'hui. Les fruits. Pourquoi on va réfléchir quelques instants à la chance que nous avons qu'Hachem nous donne des fruits. Est-ce qu'un homme peut tenir sans manger de fruits pendant sa vie?
Oui.
Oui,
c'est un dessert.
Donc les fruits ne sont pas indispensables. C'est pas vital.
C'est pas vital.
Ah, pourquoi Hachem a créé les fruits?
C'est pour manger,
pour nous faire kiffer.
Pour
nous faire
élargir l'éventail de notre consommation. Non,
pourquoi Hachem a créé les fruits? À quoi ils servent?
Vitamine.
On peut se débrouiller sans ça. Oui,
bien sûr.
On fait des jus de fruits.
T'as des gens qui mangent pas de fruits et qui vivent très bien.
Ah ouais. Mon frère n'aime pas les fruits.
Non, ils mangent pas de fruits.
On passe à
bonjour.
Quoi, impossible?
Un fruit, comment?
Quoi?
Oublié d'avoir des tels. Non, sans fruits.
Non,
c'est pas indispensable.
Les fruits, c'est pas indispensable.
Banane.
Pas indispensable le fruit. Pourquoi Hachem a créé les fruits?
Pour nous faire kiffer.
Pour nous faire plaisir.
Bah ouais.
Oui. Hachem, il a créé le blé, il a créé l'orge, il a créé tout ça pour nous nourrir.
Ouais.
Pourquoi il a créé les fruits?
Pour
nous faire plaisir. C'est que pour nous faire plaisir.
Pour le couscous.
Quand tu réfléchis à ça, c'est pas une bonté d'Akadosh Baruch Hu?
Bah oui, il est bon avec nous.
C'est du chesed d'Hachem. Il y a d'autres éléments dans la nature qui t'expriment une rigueur. Par exemple, tu vois l'immensité de la mer. Ça fait peur.
Un volcan.
Ah, exactement. C'est fort. Tu vois par exemple Ruach Seara, tu vois le vent.
C'est la liste en plus.
Tu dis comment, avec toute la technologie, bonsoir, avec toute la technologie qu'on peut avoir aujourd'hui, on est impuissant devant le vent.
Faut pas aller plus loin, un prisonnier dans une prison.
Non mais même, je vois là, aujourd'hui, avec toute la technologie que nous avons, est-ce qu'on peut maîtriser le vent?
Non.
On maîtrise pas le vent. Est-ce que tu peux maîtriser la lumière? Qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit. Quelqu'un, il veut. Il y en a qui veulent fériériser des jours. Maintenant, on va faire une nouvelle mode. Des gens qui veulent éclairer une nuit. Est-ce qu'on peut éclairer une nuit?
Sur un stade, oui.
Oui. Tu peux éclairer un stade. Mais est-ce que tu peux décider que maintenant il fait jour? Je veux qu'à 4 heures du matin il fasse jour.
Ben non.
Impossible.
Tu peux pas.
Pourquoi?
Non, comme celui qui a arrêté le soleil.
Yoshua. Donc ça veut dire qu'il y a des choses comme ça dans la nature dans lesquelles on sent clairement la présence et la puissance d'Akadosh Baruch Hu. Ok, je continue. Vehachashbon, page 111, deux paragraphes avant la fin. Ve'achashbon, le calcul des valeurs numériques, moré al miout taor ve'achayout miout achar miout, indique l'amenuisement de la lumière, diminution après diminution. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait une transition, chaque fois qu'il y a une gimatria, on descend encore plus et encore plus. Pour ça, vous savez, des fois les gens ils posent la question, ils disent, mais j'entends des fois des gens qui posent des questions. Bon, d'abord, il faut faire attention aux gimatria. Les gens, des fois, ils font des gimatria un peu n'importe comment. C'est pas n'importe qui est habilité à faire une gimatria. Ouais, c'est mon avis. Je pense qu'il y a même une sikha du Rabbi, où le Rabbi parle de ça. Ils disent, c'est pas n'importe qui fait, par exemple, on sait par exemple, Amalek, valeur numérique, que Safek, le doute. Ça, c'est parce que c'est écrit dans les livres de Kabbalah. Ouais. Maintenant, moi, je peux trouver Amalek est égal Tartampion. Je veux dire, Amalek, c'est Tartampion. Il y a des gens qui font des gimatriades comme ça. Ça fait bien, tu vois, tu viens à un mariage, tu vas trouver gimatrie un tel, tac. Ça fait super mariage. Je pourrais plus trouver une gimatrie aussi qui dit mariage raté. C'est vrai. Faut faire attention à ça. Ça veut dire, c'est un peu l'autosuggestion. C'est pas comme ça qu'on fait gimatria. Qui fait une gimatria? Une gimatria, je donne pas de nom parce que je connais pas, mais une gimatria, c'est une personne qui connaît la profondeur de chaque chose. Qui connaît la profondeur d'Amalek, et qui connaît la profondeur du doute, et qui sait que Amalek et le doute c'est la même chose. Donc comme il sait que les deux c'est la même chose, il dit bon, maintenant on va chercher à les comparer dans la valeur numérique. Et là il trouve la gimatria. Ça va dans ce sens. Pas dans l'autre sens. Et c'est comme ceux qui font les jeux avec les codes de la Torah. On s'amuse pas à faire des codes. Les codes dans la Torah. C'est pas comme ça que ça marche. C'est une personne qui d'abord connaît les profondeurs de la Torah. Une fois qu'il connaît les profondeurs de la Torah, il veut te montrer comment c'est écrit. Ça, si tu peux faire. Mais il faut connaître les profondeurs des choses. Sinon, tu joues pas avec ça.
C'est pas des mathématiques.
D'accord. Exactement. C'est-à-dire, c'est pas des mathématiques. C'est pas des mathématiques. C'est une science toranique, une science qui est très profonde. Ce que je vais expliquer par ici, c'est que les gens, des fois, ils posent la question, ils disent, comment ça se fait que la gématria existe? Pourquoi tu me dis tel mot est égal à valeur numérique de tel mot? Par exemple, Amalek, valeur numérique, le doute.
Qu'est-ce que ça nous apporte?
Qu'est-ce que ça nous apporte, exactement? Si Dieu veut me parler du doute, il a qu'à me dire doute. Ouais. Tu veux me parler Amalek, tu me parles Amalek. Pourquoi tu me dis Amalek, valeur numérique 2? On fait pas ça, dans aucune langue au monde on fait ça.
Visualiser un symbole.
Même en chinois, il n'y a pas ça. Chinois, c'est hautement symbolique, il y a beaucoup de symboles, personne ne te fait des valeurs numériques. Personne ne fait ça. Faites te dire, imaginez, A est égal 1. Quand on était petit, on faisait ça. A est égal 1 dans les jeux codés, là. D'accord? Mais c'est un jeu. C'est pas sérieux. Aucune personne aujourd'hui va prendre un dictionnaire et va dire, attends, A est égal à 1, B est égal à 2, donc Gimatria, etc. Chaise Gimatria 442.
Non, hein, c'est
oui, d'accord, non, mais je comprends, mais c'est de la blague.
Voilà, c'est de la fantaisie.
C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Pourquoi nous on fait ça dans la Torah? Pourquoi on fait appel à un système de Gimatria? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, on a la réponse. Dis-la de Morazaken. La gimatria, c'est lorsque tu as une énergie qui a dû être alternée, qui a dû être donc permutée pour arriver à un autre niveau un peu plus caché. Par exemple, Amalek, c'est un ennemi qui t'attaque directement. Il vient devant toi et tu dis, je te supporte pas, je te mets un coup de boule. C'est clair. Maintenant, Amalek, en version plus light, c'est-à-dire en version cachée, c'est quoi? C'est le doute. Le doute, il vient pas te dire, je vais te cogner. Quand t'as le médecin qui te met le doute dans la tête, il vient pas te dire, viens, je vais te cogner, je vais t'embêter. Non, juste on réfléchit. Peut-être qu'on prendrait un autre choix. Maintenant, toi, tu as du mal à appeler le doute Amalek. Parce que tu dis, Amalek, il est venu me décoller une droite, il est venu en face de moi, il est venu se battre. Maintenant, le doute, quand le tsar a même le doute dans la tête, est-ce que je fais cette mitzvah, est-ce que je fais Shabbat, est-ce que je fais pas Shabbat, est-ce que je fais telle mitzvah, est-ce que je fais pas telle mitzvah? C'est un doute, c'est une question. Il n'est pas venu m'attaquer. Viens le commentaire de la Kabbalah pour te dire non. Amalek, c'est la même valeur numérique que le doute. C'est-à-dire qu'en vérité, c'est la même âne qui est derrière. Sauf que, c'est une énergie qui a été permutée. Et quand elle est permutée, automatiquement, tu as plus de mal à voir son origine et sa source. Mais c'est la même énergie. C'est la même. Amalek est égal à Safek. Mais vous voyez que là, dans cet exemple, on voit clairement que dès qu'un élément est permuté, tout de suite, on a plus de mal à le cerner. De la même façon. Quand tu as par exemple le mot or, or, valeur numérique de... Allez, on va faire ensemble un peu de gimatria. Or, Aleph, 1, Vav, 6, ah oui, Resh, 200. Ça fait 207. Valeur numérique, rase le secret. Ah, j'ai un problème là. Parce que la lumière, c'est quand c'est clair. Et le secret, c'est quand c'est caché. Comment on va faire?
L'origine de la lumière est cachée.
Hein, qu'est-ce que tu en penses, David?
C'est la lumière divine.
Si on peut pas, on peut pas la
lumière
pas,
divine.
Il est bien au chaud là. Il pense à la Kaila de Shabbat.
Non, il est au buffet.
On est mouillé là.
David, le buffet des céréales était comment?
Ouais, Michel il a raté. Voilà, ça y est. Fallait pas prendre la mèche, frérot. J'ai un mal de dos.
Je vais pas te décrire ce qu'il y avait, mais quand même, il a
Fait
n'importe quoi. Il va le raconter. Il est encore dans le buffet dessert.
Yves, il a fermé le
buffet. Non, je mangeais que des fruits, mon buffet dessert. Je veux plus.
Dieu bénisse. Comment tu expliques ça? Or, valeur numérique 207. Et quand je permute, tu dis, 207 calgimatria, rase, valeur numérique du secret. Mais la lumière, c'est clair, le secret, c'est caché. Encore une fois, un exemple, qu'est-ce qu'on voit d'ici? Que quand tu permutes, tu sais, tu passes au secret. C'est comme ça. Allez, je vous fais un petit tome. C'est pas moi, ça c'est les jours qui sont écrites, je ne me serais pas permis. Prenez par exemple, on s'approche de Pourim. Mmh. Parce que 15 Shvat, ça nous rappelle que on s'approche de Hadar, Pourim, ça y est. Alors, allez, on y va pour Pourim. Alors, valeur numérique de Yaïn. Yaïn, c'est le vin. Yud, Nun. 10, 50, ça fait
70.
70, valeur numérique de Sod. Le secret. Entre le vin, le secret sort.
Ouais.
C'est Agmara qui dit ça.
On boit et d'accord. Ce qu'on va dire quand on est atteint.
Celui-là, il écrit clairement dans l'Agmara. Nirnas Yaïn, Yatsa Sod. Alors, tu vas me dire, ouais, c'est mignon. Tu as trouvé un trait, tu as trouvé une allusion. Quel rapport? Non, il y a un rapport. C'est que le vin est synonyme du secret. Alors, quel secret va sortir? C'est ton problème. T'as des gens qui ont des secrets qui ne doivent pas sortir. C'est mieux qu'ils ne sortent pas. Et t'as des gens qui ont des secrets qui doivent sortir. Et le vin est très bénéfique pour eux. Il y a des gens dans l'Agmara comme ça. Une fois, il y avait un. C'était un Rabbi Yochanan. Il a invité du monde à la maison. Il a invité des jeunes qui étaient très bons, mais ils n'osaient pas parler. Alors il a dit à ses élèves, il leur a dit, servez-leur un peu de vin qui parle. On leur a servi du vin. Ils ont commencé à parler, des ridouchim extraordinaires. Voilà, on voit que le vin, il y a du bon.
Ben oui.
Nirchnas Yaïn, Yatsasod. Le vin est rentré, le secret est sorti. Qu'est-ce que j'ai fait avec une Gimatria? C'est pas un jeu, Gimatria. La Gimatria, c'est la profondeur des choses. Mais seulement, ce que tu dois comprendre, c'est que quand il y a une Gimatria, hein, ça veut dire quelque part on a occulté un petit peu. Et plus on passe dans la Gimatria, et plus on occulte.
Le yin et le yang.
On occulte encore plus.
C'est nécessaire.
Non, il y a une âme. Attends. Yves, c'est pas toi que je vais expliquer. Il y a une âme spéciale dans le vin.
Non,
c'est pas ça. C'est que
le parfum.
Il y a une âme dans le vin. Il y a une énergie particulière.
C'est normal que HM ait fait ce procédé.
Moi, je vois pas des gens prendre des whisky et les laisser décanter, les faire tourner, les faire.
Et pourtant.
Oui.
Non, je disais que c'était nécessaire. Parce que sans ce processus-là, on n'aurait pas pu vivre. On n'aurait pas pu supporter la présence de.
Bien sûr. C'est évident. Je vais vous expliquer ça. C'est nécessaire. Une question encore?
Il n'y a que comme ça qu'on évolue. Sinon, on ne peut pas.
Marcel, qu'est-ce que tu en penses, tout ça? Miguel?
On va voir.
Qu'on va voir.
On peut être là et être absent aussi.
Ça fait partie du téléphone. Pourquoi il a fait ça?
Allez, je vais continuer. Cos. Valeur numérique de Cos, c'est combien?
Cos.
Pas à Cos, Cos.
Cos, c'est juste
Cos.
Cos.
C'est le numéro.
Caf, Vav, Samer. Caf, 20, 6. Vav, c'est 6. Samer, 60, ça fait
86.
86, c'est la valeur minimale. D'accord? 86 centilitres, c'est la valeur minimale pour un cos. Pour un cos, moins que ça, c'est pas cachère. C'est le révi.
86 millilitres.
Millilitres.
Millilitres, ouais, parce que.
Oui, centilitres, c'est beaucoup. 86,
c'est plus que bouteille.
86 millilitres. Vous voyez, c'est un remède. Tu dirais, t'as trouvé une allusion. Non, c'est sérieux. Hein? Quoi? Pour des personnes habilitées.
232 de combien de maisons?
Non, parce que là, ce que tu viens de dire, c'est 231.
Allez, on va continuer. Tania. C'est les mêmes lettres que Tania. Tav, Nun, Yud, Aleph. C'est les mêmes lettres que Etan, la puissance. Il y a un niveau dans la Neshama qui s'appelle puissance. Et pour faire appel et pour développer ce niveau de puissance de la Neshama, il faut étudier le Tania. C'est sérieux ce que je vous dis, c'est le rabbi qui dit ça.
Il y a 231 fois.
Ah, ça, je connais pas. Non.
Parce que moi, j'ai fait ça.
Oui, je sais, mais je connais pas la gématria.
Même.
40.
Sa mère.
60.
Kouf.
100.
Yud.
10.
Comment ça s'appelle?
210. Ah, Hazak.
Il y a 210 d'esclavage.
Bon, allez, on a assez parlé, on va continuer. Ah, Chilon, donc vers Cheshbon, on reprend de parler avant la fin. Mais c'est extraordinaire quand on voit les guimatrias. C'est ma mâche. Dans chaque chose, on retrouve une guimatria. Il y a des livres, mais il faut prendre des livres sérieux parce que, comme dans tout, hein, vous avez des babas qui racontent n'importe quoi.
J'en ai un chez moi.
Non, mais il y a des livres sérieux. Prends des livres sérieux. Il y a des livres sérieux qui te disent les guimatrias de chaque chose et qui t'expliquent, etc. Après, on n'est pas trop dans ça chez nous, d'accord. On a reçu le Trabat, on n'est pas trop dans ce milieu parce que, hein, voilà, parce qu'on n'a pas besoin. Mais il y a des choses.
Aménager. Il y a un livre grand cabane. Il vient à Jérusalem. Il vient de temps en temps.
Tu piges.
Tu piges.
Torah. Valeur numérique de Torah, c'est combien?
On sait même pas.
C'est écrit dans la Gemara, celle-là. Celle-là, c'est écrit dans la Gemara. Tav, 400. Vav, 6. Resh, 200. Hé, 5. Ça fait combien? 611. Non, 611.
611, ouais.
Il en manque 2.
C'est les deux premières qu'on a écoutées.
Torah, Tzival, la Gemara dit Torah, Tzival à nous, Moshe. La Torah, 611, c'est Moshe qui nous a ordonné. Pourquoi 611? Parce que les deux premiers commandements, on les a entendus directement d'Akadosh Baruch Hu. Torah, Tzival à nous, Moshe. 611, Moshe nous a ordonné. Tout est précis. Il n'y a rien qui laisse au hasard. Hein? Ah, c'est vrai, j'entends 613, j'ai dit, on cherche bien, il est où 613? Non, c'est 611. C'est parce que les deux premiers, parachat cette semaine, parachat trop. Mm. Les deux premiers, on l'a entendu directement dans la Kadosh, on n'a pas besoin de Moshe pour ça. Par contre, c'est les suivants, on a dit Moshe. Ouais, parle-toi avec Hachem et
c'est quoi
Hachem,
les deux premiers?
Je suis l'éternel ton Dieu, tu n'auras point d'autre Dieu. Les deux premiers commandements. Tu n'auras point d'autre Dieu. Les deux premiers commandements. Parce qu'on a une fait, ça fait ressusciter deux fois, et après, à partir du troisième commandement, on a dit à Moshe, on a dit, écoute-toi, nous on n'est pas en état, et tu nous répéteras.
Et qu'est-ce qu'on a fait pendant ce temps-là?
On attendait, on était en stand-by, qu'est-ce qu'on a fait?
Non, mais.
On était dans la salle d'attente.
Je sais pas qu'est-ce qu'on a fait, on a dansé, on s'est tué, je sais pas. C'est une bonne question, je sais pas. Hein? Vu le tonnerre et des éclairs, c'est d'avoir peur. Trembler les gens maintenant de Torah. C'est qu'ils viennent trembler.
C'est impressionnant.
Et c'est pour ça que la camarade nous dit que quand on étudie la Torah, il faut étudier la Torah en tremblant. Pas en tremblant dans le sens que mes membres doivent trembler, normalement mes membres devraient trembler, mais.
Se mettre dans les conditions. Dans les
blessures. Des fois, je vois qu'ils viennent des cours de Torah, ils sont comme ça, tu vois. Comme ça, ils sont comme ça. Comme ça que tu as reçu la Torah au Mont Sinaï. Normalement, quand on devrait écouter la Torah, on devrait être debout. Vous avez remarqué que les Chabad, ils se lèvent. Il se lève pour le Créateur Torah. Une fois, quand j'étais petit, j'ai posé la question à mon père. Je dis pourquoi on se lève pendant la Torah. Il m'a dit comment on a reçu la Torah au Mont Sinaï. Il était debout ou assis? Alors instinctivement, j'ai dit debout certainement. Il m'a dit alors on est debout maintenant aussi.
Oui,
puis ça reste dans ma tête.
Vous êtes debout pendant toute la Créateur Torah? Non.
Mmh. Si.
Toujours. Toute la Créateur Torah.
Ah ouais.
Tout à fait, attention.
Il y en a qui font. Pas tout le monde le fait, mais.
On a besoin de confort aujourd'hui.
Hein? Quoi?
On a besoin de confort aujourd'hui.
Debout? Sûr qu'on est debout. Parce que tu reçois la Torah?
Ils sont petits alors.
On se fait discret, mais on est debout.
Donc c'est vrai de vous lever juste pour
le commandement? C'est pas une autre question, ça. C'est une question.
Non, mais c'est vrai que c'est.
Sois gentil.
Il y en a qui disent que c'est un problème.
C'est un problème.
Parce que c'est bien sûr, ça ferait des différences dans la Torah. Bon, mais c'est bien de se lever quand même, parce que concrètement, il y a des parties dans la Torah qui sont une doucha particulière. Plus que d'autres, j'ai pas dit plus, mais particulière. Particulière. Ok, on va continuer. Ve'a Cheshbon, on reprend la page 111, deux paragraphes avant la fin. Ve'a Cheshbon, more al miut achayut, aor vachayut miut achar miut. Donc, le calcul des valeurs numériques, c'est pas seulement un jeu, c'est pas un hobby, c'est sérieux. Ça montre comment. Chaque fois qu'il y a une valeur numérique, ça veut dire que l'énergie divine va s'amoindrir encore plus et encore plus, diminution après diminution. Ad, shelonish armi menu et la prina charona, shuprina tacheshbon, ou mispar kamamine ou matkechon marigot, l'od berreut azé, amelouvej vatiro shaltevazo. Que finalement, il va rester qu'une quantité infime d'énergie, de la lumière, qui se trouve dans cet objet.
C'est
comme un transformateur, exactement. Maintenant, imagine-toi qu'un transformateur. C'est un très bon nom, un transformateur. Quand tu as un transfo, par exemple, qui va te transformer de 220 volts en 5 volts. Ok? Donc tu dois te dire que ce transfo qui transforme 220 en 5, en vérité, la tension que tu as ici, elle provient d'un autre transfo qui est quelque part là, en dessous, en sous-sol, d'accord, qui est beaucoup plus, d'accord, qui est, je crois, 30 000, je crois, quelque chose comme ça, beaucoup plus. Et plus tu remontes à la centrale, et plus tu arrives là-bas, tu arrives à 300 000, etc. Et donc, si tu dis, mais tu sais, imagine-toi maintenant, hein, non, c'est sérieux, tu arrives à l'astral nucléaire, on peut même mesurer. Ça veut dire que tu dis, mais comment tu peux comprendre que cette énergie, c'est la même énergie qui est en train de faire tourner mon téléphone portable? Seulement, encore une fois, à chaque fois qu'il y a une permutation, on réduit, au point que moi, si je touche du 5 volts avec ma main, il va rien se passer. C'est une énergie que je suis même pas sûr que mon doigt va ressentir. Je mets du 5 volts sur mon doigt, c'est pas sûr que mon doigt va ressentir. Mais attends, pas sûr.
C'est pas une réduction, c'est un fragment d'énergie.
Justement, c'est pas un fragment. C'est
que là, entre l'énergie qui part de la centrale et l'énergie qui arrive à la prise électrique ici, certes, c'est la même origine de l'énergie, mais elle est fragmentée. C'est pas comme si c'était un noyau de pêche.
La comparaison n'est pas bonne. Non, c'est pas un fragment. Attention. Parce que un fragment, si tu avais un fragment de 300 000 volts, ça brûle.
C'est une décomposition. Ça, c'est
on a décomposé et on a converti.
Un fragment de 300 000, ça reste 300 000.
Hein, bien sûr. Un fragment de 300 000. On l'a transformé. Pour ça, les gens, ils appellent ça un chargeur. En vérité, le vrai nom, c'est pas chargeur. C'est un transformateur. Il transforme du 220 volts en 5 volts. Il a transformé. Mais c'est toujours un transfo. On l'a rendu plus petit, mais...
Il a absorbé le reste et il...
Exactement, il absorbe le reste. Il y a tout un... En fait, on se rend même pas compte, mais... C'est fou, en vérité, ce qu'on fait. On consomme de l'énergie pour produire moins d'énergie.
Il part en chaleur.
Il part en chaleur. C'est-à-dire, j'ai du 220, mais moi, j'ai besoin du 5. Donc, il faut que je me débarrasse de tout ce qu'il y a entre 220 et 5. C'est tout. Donc, je vais consommer de l'énergie pour réduire l'énergie. J'ai demandé après où voit l'énergie.
Bah, c'est l'exemple qu'il faut donner à tout. C'est la centrale qui est réduite en 5 volts. T'as la preuve A plus B. Une grande énergie.
Tu vas consommer de l'énergie.
Non, mais une grande énergie te retrouve une petite. Donc, c'est la contraction de l'énergie.
C'est la contraction de l'énergie. Donc voilà. Et donc plus tu contractes, et moins tu ressens. Donc c'est pour ça qu'on a du mal à ressentir Kadosh Baruch Hu. C'est pas parce qu'il n'est pas là. C'est parce qu'avec tous les Tzimtzoumim et toutes les contractions qu'il y a eu, et les contractions sont liées à la Gimatria. Il y a 231 niveaux. Chacun de ces niveaux-là, on descend, jusqu'à la fin, tu ressens plus rien. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là. Il est là, mais tu ressens pas.
Mais c'est ça pourquoi ? C'est les règles. On peut juste croire qu'on puisse exercer le libre arbitre.
Bien sûr. Non.
Qu'on puisse vivre.
Oui. Pas libre arbitre. De forme d'indépendance.
Oui, mais je comprends sa question. La question de Michael, c'est comme ça. Je vais modifier un peu ta question. C'est quelle est la limite? Si l'objectif est seulement que Dieu soit pas visible, alors une fois qu'il est plus visible, on n'a pas besoin de descendre encore plus. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'on descend à un point que c'est même pas que on ressent plus à Kadosh Baruch Hu. C'est que t'as quasiment des créatures qui te donne un sentiment d'autonomie. C'est très problématique, ça. D'indépendance, d'autonomie. C'est problématique, ça. Comment tu peux arriver à un niveau comme ça?
C'est pour ça que tu as les personnes qui sont là.
Comment tu peux arriver à une situation que tu as des créatures, même des êtres humains, qui sont contre les juifs, qui sont contre le bien, et qui sont autonomes, qui réussissent? Comment ça marche, ça? Comment tu peux arriver à ça? Imaginez le nombre de tzimtzoum qu'il faut pour arriver à ça. Que tu se contracter. Bon, c'est comme ça. Voilà, il va répondre à ta question tout de suite. Tu vas voir, c'est pour ça que c'est une très bonne question. Page 112. Ve'achar kol ha'tzimtzumim ha'eleh ve'kayotze ba'en. Regarde, il va répondre avec 4 mots à ta question. Ka'asher gazra chomato yitbarer. Et après toutes ces contractions et similaires, selon ce qu'a décrété sa sagesse de Benishotim. Ça veut dire qu'il veut te faire comprendre qu'on a beau essayer de comprendre, de faire des calculs, etc. Au final, qui détient les clés du jeu?
C'est lui, là.
Gzera. Gzera, c'est un décret. Ça veut dire que moi, je suis incapable de t'expliquer pourquoi, pour arriver à un certain résultat, il fallait passer par tant de permutations. Je suis incapable de te répondre à cette question. Par contre, quand tu es un tzaddik, tu es capable de répondre et de dire, bon, bah, si ce monsieur, par exemple, il est malade, c'est parce que la permutation, elle passe par là. Donc nous, si on fait ça, on modifie le nom, donc on va faire telle permutation. Tac, il va savoir ce qui va se passer. Ça, il peut le faire. Mais il peut te dire, par exemple, on va voir un tzaddik, il va dire, il manque un prénom. Ou il va dire, ah... Une personne qui a un tel prénom, il doit faire telle mitzvah. Comment il fait? C'est parce qu'il est capable, il voit les permutations. Maintenant, c'est pas parce que le tzaddik, il voit tes permutations, que le tzaddik est capable de te dire, bon, je vais les changer. Il peut pas les changer. Ce qu'Hachem a fait, c'est ce qu'Hachem a fait, c'est une xéra. Donc, on n'a pas la réponse à la question. On maîtrise pas les calculs des Kadosh Baruch Hu.
On pourrait dire ça.
Mais en tout cas, ce qu'on peut être sûr, c'est qu'il y a un calcul très précis, comment on est permuté et comment on arrive à un résultat. Et c'est extraordinaire quand on réfléchit, ça fait beaucoup réfléchir quand on est le virus qui tourne en ce moment. Kadosh Baruch Hu protège tous les habitants de son monde, Verachama, Kol Maasav, Kadosh Baruch Hu a pitié de toutes ces créatures. Quand vous réfléchissez, finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est venu ce virus? Mais comment est venu ce virus? C'est une permutation.
Dans les sushis.
C'est une permutation. C'était une permutation. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un virus à la belle qui tourne entre les animaux.
Une mutation.
Donc c'est une mutation, mais ça veut dire que c'est un virus qui tournait chez les animaux, qu'un être humain passait à côté, même si un animal éternué devant lui, il n'y avait rien. D'accord? Non, c'est plus que ça. Non, je suis pas d'accord. C'est plus que ça. Non. Parce que quand tu étais avant, quand un être humain était avant à côté d'un animal qui était porteur de ce virus, même si l'animal éternuait, l'homme ne captait pas ce virus. Tout est précis dans le monde. Il y a des choses que l'être humain va capter, que l'animal ne capte pas, et qu'il y a certains animaux qui captent, d'autres qui captent pas. Tout est précis dans ce monde. Je sais pas pourquoi. Il y a une permutation. Et tu vois à quel point, regardez, tu vois à quel point, donc il y a une permutation. Parce que la permutation s'est passée combien de fois? Une seule fois elle s'est passée. Est-ce qu'on est capable d'expliquer comment s'est passée cette permutation? Et d'ailleurs, tout le monde espère que, comme le dernier virus, que Baruch Hashem ait été éradiqué, de la même façon qu'il y a une permutation une fois, il y a une permutation une deuxième fois, et il a été réglé. Après, il est parti, de la nature. Après, c'est les pierres qui vont l'attraper. Après, une pierre l'attrape, l'être humain l'attrape pas. C'est comme ça. Donc quand tu t'imagines, tu dis, mais finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a eu un virus, qu'il y a eu une permutation chez une personne. Par quel phénomène il a permuté? Par l'atmosphère, parce qu'il a mangé, parce qu'il a mangé avant, parce qu'il a mangé après. On ne maîtrise pas du tout ça. Nous, ce qu'on sait seulement, c'est qu'on a un résultat concret, qu'il y a eu une permutation. Et regardez jusqu'où on va. Il y a des gens aujourd'hui qui sont bloqués dans des pays, des villes entières, des bateaux qui sont bloqués. D'accord? Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mettez-vous dans la tête de ces gens. Tout ça pourquoi? Pour une permutation. Hein? Oui. Mais c'est une folie. Regardez comment le monde entier est fou à cause de ça. Et potentiellement, ça peut aller très loin. On sait, parce que si tu sais pas comment ça va s'arrêter, tu peux pas te projeter. Comment tu vas t'arrêter?
C'est ça.
T'as pas de modèle pour projeter, pour dire voilà comment ça va s'arrêter. Personne n'est capable de dire comment ça va s'arrêter.
Si Trump il a dit que ça allait s'arrêter avec la chaleur, avec l'été qui arrive.
Comment ça s'arrête avec la chaleur?
T'as pas entendu Trump?
J'ai pas entendu.
Trump il a dit bon maintenant puisque en général ça meurt.
C'est bien la prophétie était donnée au fou. Ah c'est un type bien.
Il s'était trompé.
Il a dit maintenant que ça va arriver avec la chaleur, rien ne résiste et ça va partir avec la chaleur.
Non, il n'empêche que moi j'ai parlé avec un copain qui.
T'as pas entendu?
Il mange du cachet et tout. Il m'a dit, mais finalement, il me dit, quand on voit ce qui s'est passé, parce que tout le monde parle, disent par rapport à ce que les autres mangent, etc. Bon, bref.
Il n'a pas le droit de dire ça. Non, je suis pas d'accord avec ça.
Ça, c'est ce qu'il dit. Non, mais après, il m'a dit, bon, alors.
Les autres font des bêtises moins importantes.
Attends.
Ils vont avec des hommes, ils vont avec des trucs, ils vont avec des animaux, c'est pire.
Ce qui leur sort, il dit quand on regarde maintenant, vous chez vous les Juifs, vous ne mangez pas les crevettes. Donc je comprends pourquoi maintenant. Alors, je dis pourquoi tu mets ça? Je dis parce que maintenant les crevettes, quand tu les achètes, elles sont piquées, gonflées avec de l'eau. Donc ça veut dire déjà c'est pas normal, c'est pas naturel, donc il y a des injections, il y a des produits qui sont rajoutés, etc. Des choses qui
même
sont
le
pas.
Poulet, ils font ça, les
et dit, mais vous, la différence.
Mais c'est ça change. Mais un non-juif, il a le droit de manger des crevettes.
Ah oui.
Il a le droit de manger des crevettes. Il a pas à manger quelque chose de vivant. Non, mais lui, il a le droit de manger.
C'est la constatation qu'il est en train de dire à la fin. Il dit finalement, le fait que vous mangez cachère, comme vous regardez ce que vous mangez, on vous dit ça c'est autorisé, ça c'est pas autorisé. Par contre, nous, tout est autorisé.
Ouais.
À partir de là, on peut mettre ce qu'on veut. Et à partir, il n'y a pas de contrôle. Sauf que maintenant, voilà, c'est ce qui.
Non, mais. Non, mais.
Ça ne va pas du virus. Non, mais. Bon, c'est.
Non,
il y a. Quoi? Bah, il est pas dégueulé.
N'importe quoi.
Déjà, quand tu vas en Israël et que tu bouffes de la dinde, elle est tellement chargée que.
Bah,
tu parlais de la dinde. C'est cachère, pourtant.
Laquelle, celle de Noël ou l'autre?
Bah, ils te disent qu'il y a marqué dedans.
C'est vrai.
Comment ça se fait que dans notre quartier ici, d'accord, t'as des dizaines ou des centaines de milliers qui mangent des animaux vivants, il se passe rien? Ils ont rien du tout.
On n'en sait rien.
Parce qu'ils ont rien, ils sont pas malades.
Parce que c'est des juifs.
Ils sont pas malades. Ils vivent très longtemps.
C'est des juifs. T'as remarqué que dès qu'ils croisent des Chinois, les gens sont comme ça et tout, dans la rue.
Ouais, ouais.
Dès qu'ils croisent des Chinois, ils se protègent.
Et dans le métro, c'est pareil.
Et un chien.
Très bon, on va venir aux choses sérieuses. Alors, ça veut dire, on voit ici clairement à quel point. On voit que, regardez, une permutation. Mais regardez, je sais pas si vous vous rendez compte. Une permutation. Regardez ce que ça donne. Comment le monde entier devient fou. Le monde entier devient fou pour fermer des villes comme ça entières, faire des hôpitaux, etc. Ça veut dire que c'est quelque chose, c'est grave ce qui se passe. Une permutation. Ok. Donc c'est ça ce que veut dire c'est l'Admor Hazaken. L'Admor Hazaken te dit Kasher Gazra Chomato Yidbarer. Le nom de Tzimtzumim est décidé par Akadosh Baruch Hu. Et c'est une gzera. On apprend en ce moment, pour ceux qui viennent pas au cours de Gmara de dimanche matin, je fais une pub au passage, on apprend en ce moment, non voilà, en plus que ça, on apprend en ce moment dans la Gmara de Ta'anit, on vient de commencer un nouveau chapitre, à partir de quel moment on considère que c'est une catastrophe naturelle pour laquelle il faut jeûner.
Un tous les 500.
Une épidémie, une pandémie, etc. Non, mais il y a plus que ça. Ça dépend.
En trois jours.
On dit qu'il y a des... Non, il y a plus que ça, il y a une suite. On dit qu'il y a des cas. Il y a des cas où quand c'est tellement hors norme qu'on dit que même si ça arrive dans une autre ville et que c'est en train d'arriver, que c'est pas arrivé et que nous on n'est pas dans cette ville, on est dans une autre ville, il faut quand même jeûner. Je ne sais pas si on est dans ce cas-là, je ne suis pas habilité pour ça, mais c'est clair que c'est important. C'est une xéra ce qui se passe dans le monde aujourd'hui.
C'est sûr.
C'est une xéra. Et le fait que dans l'actualité on en parle moins, ça c'est parce que malheureusement l'habitude, on s'habitue à tout.
De quoi tu parles? Du virus?
Du virus?
On parle d'une ville de
Moi, sincèrement, on est quand même éloigné. On en fait beaucoup. Il y a 800 morts. Ils te disent que la grippe en une année.
Non, c'est pas la même chose. C'est pas contrôlé. Pas du tout. Regardez. Quand vous avez par exemple chez vous à la maison, là, Dieu préserve, une fuite d'eau. Vous n'arrivez pas à arrêter cette fuite d'eau. Même si au début vous avez peut-être que 1 cm d'eau partout, mais ça ne peut pas s'arrêter. Ça ne va pas s'arrêter. Bon. Tant que tu n'as pas réglé la fuite, ça va continuer. Ça ne peut pas s'arrêter. Ça s'est jamais réglé tout seul.
D'accord, et alors, ouais.
Donc, comment ça va se régler? Comment ça se règle?
Parce que, à mon avis,
oui.
On trouve un vaccin. Il faut 18 mois pour un vaccin.
Ou un bon plombier.
En 20 mois, combien de personnes vont partir, ouais. Je préfère. C'est une xéra. Non, mais les rabbinim en parlent en Israël. C'est sérieux, c'est une xéra.
Donc, forcément.
Non, mais c'est pas une solution, ça. T'as les créatures d'Akadosh qui sont en train de souffrir maintenant. Qu'est-ce que nous on fait? Rochelle en prie pour tout le monde, non? Ça fait beaucoup réfléchir, ça.
Si on suit la théorie, on va tous être contaminés.
Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit.
Ils vont trouver d'où ça vient. Comme on voit dans les films.
J'ai dit que c'est une xéra et que ce soir, quand vous allez faire Mahariv, quand on va faire Mahariv, il faut avoir une pensée pour ces gens-là.
Les maladies.
Quand on va faire Refaïn ou Hachem Venera, on va penser à ces gens-là aussi.
Mais bien sûr, mais il n'y a pas que ça.
Bien sûr.
Quand on ne dit pas le nom, quand on dit la maladie, c'est pas une xéra, ça aussi, et ça tue beaucoup.
Bien sûr.
Eh ben, on t'en parle pas comme ça. Moi, je trouve que là,
c'est pas contagieux.
Moi, c'est mon sentiment.
C'est pas contagieux.
On a voulu.
C'est exponentiel.
C'est pas contagieux, mais ça fait plein de morts.
Mais bien sûr. Parce que c'est la grippe, c'est contagieux, ça fait plein de morts.
Le cancer, c'est horrible. Il y en a partout, tous les gens.
Jacques, bon, on va continuer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en parler à nos enfants et leur faire peur, etc. Bon, évidemment. Voilà. Ça, il ne faut pas leur faire. Il ne faut pas les rentrer dedans. Quoi?
Je me suis dit la différence entre pandémie et épidémie. Parce que plus les pandémies, c'est quand c'est encore.
Pas que c'est une nouvelle pour les gouvernements de maintenant, mais bon.
C'est une pandémie maintenant.
Ce qu'ils ont
c'est de créer un système de quarantaine.
Oui, mais c'est très difficile au monde d'aujourd'hui.
Bien sûr. Mais la ville d'où c'est parti est en quarantaine.
Elle est déjà en quarantaine. Depuis le début.
Ils sont chez eux. Pour les bateaux, c'est pareil.
C'est horrible.
Ça veut dire que dès que tu maintiens, par exemple,
bon.
Mais ils sont identifiés.
On continue.
Oui, ça, c'est
parce que mortel.
Allez.
Aux Philippines, tout le reste.
Verra. Alors, on y va, on continue. On est en haut de la page.
On va finir là.
On est en haut de la page 112. Allez, comme ça, on termine le chapitre. S'il vous plaît. Donc après toutes ces contractions et similaires, selon ce que Dieu a décidé. C'est grâce à ça que la lumière divine peut se retrouver même dans des pierres et dans une terre inerte. que dans la terre, tu vois pas la présence d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est inerte. Dans la lumière, je vois l'énergie divine, parce que je sens qu'il y a de l'énergie. Ça, je vois. Mais dans la pierre, je ne vois pas. Pourquoi ? Qui even derech machal. Alors là, il va nous donner un secret. Il va dire even. Tout à l'heure, j'ai parlé de la pierre. La pierre n'est pas écrite dans Bereshit. C'est parce que si elle était écrite, la pierre aurait bougé devant moi. L'animal, il est écrit dans Bereshit. C'est pour ça qu'il bouge. L'homme, il bouge parce qu'il est écrit dans Bereshit. La pierre n'est pas écrite dans Bereshit. Elle ne bouge pas. D'où elle vient la pierre ? Even, alef, bet, nun. Il va expliquer. Qui even derech machal, shma moré, qui shorcha michem aole ban bemisparo. Par exemple, la pierre, son nom indique que elle provient d'un nom divin dont la valeur numérique est 52. Vous savez que dans les noms d'Akadosh Baruch Hu, il y a plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu, il y a un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui est composé de, il y en a qui, un nom d'Akadosh Baruch Hu qui est composé de 63, il y a 72, 63, 45 et 52. C'est les chiffres gagnants pour le loto, d'accord?
Il n'y a pas
72. Ah, il n'y a pas 72. Donc, c'est différentes façons de composer le nom Yud-Ké Vav-Ké. Avec le Yud, avec le E, etc. Vous avez, selon les combinaisons, selon est-ce que je mets avec, en toutes lettres ou pas en toutes lettres, est-ce que, etc. Vous avez 4 combinaisons possibles. Vous avez 72, 63, 45 et 52. 4 combinaisons possibles. Maintenant, Even, dans le mot Even, j'ai le mot Bet-Nun. Bet, 2, Nun, 50. 52. Donc ça me fait 52. Donc apparemment, peut-être c'est une permutation qui est liée à cette combinaison de l'encadrage par en roue, la combinaison 52. Mais le problème, c'est que dans Even, j'ai un Aleph en plus. Qu'est-ce que je fais avec ce Aleph? Il dit non, il explique. Il dit, Veot Aleph no sefet mishamacher. Maintenant, il est possible que le Aleph supplémentaire que j'ai dans Even est lié à un autre nom d'Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire, c'est très compliqué ce qu'il est en train de nous apprendre là. Là, c'est un scoop ce qu'il nous apprend. Il se dit que dans un mot qui s'appelle Even, tu peux avoir deux lettres qui proviennent d'une énergie et une lettre qui provient d'une autre énergie. Et hop, tu mets les trois ensemble, ça te fait une nouvelle énergie. Donc là, Yves va avec le meilleur calculateur. T'as compris ? Regarde, tout à l'heure on parlait des combinaisons et des permutations. Bon, moi je croyais qu'on se limitait à un seul mot. C'est-à-dire que le mot Even, 1, 2, 50, 53. Au moins je cherche 53 permutations, ce que tu veux. Et il te dit non. Il dit non, en fait le mot Even, tu peux peut-être éventuellement le découper en deux ou en trois même s'il faut. Tu peux dire, j'ai Aleph, Bet, Nun. J'ai 1, 2 et 50. Alors je vais mettre 52 d'un côté et 1 d'un autre côté. 52, je le prends d'un mot et 1, je le prends d'un autre mot. Donc ça me fait encore plus de permutations, ça. Parce que chacune des lettres, je peux la prendre d'ailleurs. Donc c'est à l'infini. Tu vas à l'infini avec ça. Et là, l'Admor HaZaken, il te dit, il nous apprend le secret. Il dit que le mot Even vient du mot Bet, Nun. Ça passe par 52. Il nous a donné la piste. Excuse-moi, on va terminer. Veiné. Shemban be'atzmo ubalamot elyonim me'od. Maintenant, si tu prends le nom 52, le nom 52 par rapport au nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est un nom qui est très élevé. Ça veut dire, c'est une dimension très élevée. Ça remonte jusqu'au monde d'Atzilut, Bria, c'est très très élevé. Mais, est-ce que moi, quand je vois la pierre devant moi, je la vois bouger? Non. Parce qu'il y a encore une fois une permutation, une combinaison, et donc c'est descendu. Et donc, Rak, Shalidé, Tzimtzumim, Rabim, Batsumim, Madrigal, Madriga, c'est seulement par le biais de nombreuses et puissantes contractions. Yara, du Menachayut, Mouetet, du Mehod, Mehod, on est arrivé à une vitalité extrêmement minime, un filet d'énergie. Hachetouchal et Klavesh, Be'even, au point que cette énergie peut s'habiller dans une pierre, Vezoï, Nefesh, Adomem. Et ça, c'est le Nefesh, l'âme de la pierre. Parce que dans toute chose dans le monde, il y a une âme. Et il n'y a rien dans le monde qui n'a pas d'âme. Tout vit. C'est dans les deux catégories de vie. T'as une vie qui est visible et t'as une vie qui n'est pas visible.
Qui est inerte.
Mais même l'inertie est une vie.
Contient de l'énergie.
C'est de l'énergie. Parce que le fait même que t'as une existence devant toi qui vit quelque part, parce qu'elle évolue avec le temps. Donc il y a une matière qui est là. Cette matière, c'est de l'énergie.
Ouais, il y a des molécules. Ça.
C'est clair. Seulement, c'est l'énergie qui est infime parce qu'elle bouge pas. T'as beaucoup de choses qui bougent dans le monde. Ça bouge pas.
On le voit quand Moshe, il a tapé sur le rocher.
Excusez-moi, je vais juste terminer le paragraphe. Après toutes les questions que vous voulez, comme ça, on termine le paragraphe. Donc, Vezoï Prinat Memale Kolamin, Machanken Prinat Sauve Kolamin. Et donc, c'est là le degré de Memale Kolamin, comment Dieu emplit tous les mondes, à la différence de Sauve Kolamin. Quand on dit que Dieu emplit tous les mondes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la présence d'Akadosh Baruch Hu peut prendre différentes formes. Le Kol Kear Koar ou Madriga Yachol Livro Brouim Kfim Prina Madrigazo, Gam Ken Le Enkez de Tarim Kabutam Vekotam Le Chot Adéal. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que chacune des énergies qu'il y a dans la Parasha Bereshit peut créer à l'infini, parce que la parole de Dieu est infinie. Donc, je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de dire. le pouvoir créateur des Asara Mamarod, 10 paroles d'Hachem qui sont dans la paracha Bereshit, c'est pas seulement une parole d'Hachem que Dieu a fait à la création du monde, et après cette parole connaît des permutations, permutations. Parce que si c'est comme ça, si tu démarres, si il y a une énergie qui a démarré à un instant T, forcément que cette énergie, plus elle avance, plus elle se réduit, et elle n'est pas renouvelée, elle s'est arrêtée. Vous suivez? Tu prends une balle, je la jette. Même si j'ai des permutations, à un moment, l'énergie, forcément, va se baisser. Chaque cas de jour, c'est pas comme ça. L'énergie d'Hachem est constante et éternelle. Donc, l'énergie qui se trouve dans la paracha Bereshit, tout ce qui est dans la paracha Bereshit, c'est éternel. Et il y a constamment, à l'instant où je vous parle maintenant, il y a des milliards de milliards de milliards de permutations qui sont en train d'être faites pour générer chaque chose qu'il y a dans le monde autour de nous. Maintenant, à l'instant où je vous parle. Et Dieu est en train de redire la paracha Bereshit maintenant, à chaque seconde, parce que les paroles divines ne s'arrêtent jamais. Donc, c'est là qu'on comprend qu'en vérité, Bereshit n'est pas un événement qui s'est passé il y a 5780 années. C'est un événement qui a commencé il y a 5780 années. Mais qui continue chaque seconde.
Ah, parce qu'on dit
qui se régénère chaque seconde. Amechadesh betuvo bechol yom tamin ma'aseh bereshit. Dieu renouvelle chaque jour, à chaque instant, la création du monde. Chaque instant. Chaque instant. Chaque seconde. Me'acha, shekoach mitpashet, Hashem mitpashet ve'nisel murapim ve'en ma'atzor. Il n'y a rien qui peut retenir la parole de Hashem. Elle s'arrête jamais. Ach, seulement, comment expliquer? Seulement, Kadosh Baruch Hu, pour créer le système du libre arbitre et pour créer tous ces systèmes-là, il a fait qu'il y a des permutations qui font que tout ça est limité. La vérité, c'est que ce chapitre qu'on est en train de terminer, c'est un chapitre qui est, je pense, un des chapitres les plus compliqués du Tanya, de tout Tanya. Donc, il y a beaucoup de commentaires du rabbi sur ce chapitre, parce que c'est un chapitre qui est complexe. Mais, en tout cas, voilà, ce que je voulais qu'on retienne, c'est cette idée. Que dans les énergies du monde, il y a les énergies qu'on ressent, les énergies qu'on ne ressent pas. Et quoi qu'il en soit, tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Et il ne faut pas négliger la gimatria. C'est très sérieux la gimatria. Il y a des grands secrets qui se cachent dedans. Parce que des fois, on entend des gens parler, on rigole un petit peu, il ne faut pas rigoler.
Non, mais...
On n'est pas au niveau, pas de problème. Bon, t'es pas au niveau, ok. C'est pour les initiés, pas de problème, touche pas à ça. Mais c'est quelque chose de très très, très important. Et au contraire, plus on avance, et plus on comprend à quel point la présence divine se cache dedans. Comme la gimatria, c'est quand t'as un phénomène, quand t'as une dimension qui descend au point d'être imperceptible. Et toi, ton rôle, c'est de faire la démarche inverse et de retrouver la présence d'Akadosh Baruch Hu. Voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a arrivé des questions.
Le nom de la création de Dieu, le premier nom de Dieu, c'est Elohim. Quand il a créé le monde, parce que chaque nom de Dieu,
oui,
il a une force.
Elohim.
Donc à chaque fois, quand il change de nom, il a
toujours
la même.
C'est Elohim. Non, c'est Elohim. C'est Elohim qui commence. Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Elohim, valeur numérique.
Et après, quand il change de nom.
Elohim, valeur numérique. 1, 30, 5, vous comptez 1, 30, 31, 5, 6, 10, 40, 86. Un peu 86. Ça vous dit quelque chose,
86 numérique que
86. Que Hateva. Hateva. Et que
Tout à l'heure.
Tout à l'heure, on a parlé de
Kos,
le verre. Le réceptacle pour le monde, l'énergie du monde.
Moi, c'était plus une remarque. On s'imaginait pas, mais on a trouvé que chacune des pierres avait une énergie.
Bien sûr.
Et le plastron du Kohen Gadol, c'est ça.
Exactement.
Ce sont des énergies.
Aujourd'hui, on est capable de te dire que chaque pierre que tu as a une molécule qui est unique. Chaque molécule est unique.
Hein, ce soir, il reste là chez moi à la maison. Okay. Un prochain trala.
Zach.
Ils ont fait une vingtaine de nanas, ils sont venus.